Bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Une émission spéciale consacrée au compositeur Daniel Meyer. Aujourd'hui, seconde partie de notre émission consacrée à Daniel Meyer, suite à l'émission diffusée du 14 octobre dernier. Nous avons choisi justement de marquer le 10e anniversaire de la disparition de Daniel Meyer à travers ces deux émissions spéciales afin de brosser le portrait d'un homme qui, durant toute sa vie, a manifesté une implication fidèle et militante au service de la création et de la musique contemporaine. Homme reconnu et apprécié pour sa rigueur intellectuelle, son intégrité morale et sa générosité, Daniel Meyer, compositeur, nous a laissé une œuvre foisonnante et riche, marquée par une forte indépendance esthétique qu'il a pu se forger et faire grandir, notamment auprès des compositeurs Henri Dutilleux et Maurice Ohana lors de ses études à l'École normale de musique de Paris. Ces deux émissions viennent également en écho au concert donné par l'orchestre Sostenuto le 18 mai dernier, en hommage aux deux grands musiciens clermontois que sont Claude Giot et Daniel Meyer, à la Maison de la Culture. Lors de ce concert a été interprété justement l'opus 79 pour violoncelle par un des jeunes violoncellistes de l'orchestre, une œuvre que Daniel Meyer a finalisée quelques jours avant sa disparition. Nous sommes donc très heureux aujourd'hui au sein de Résonance que cette nouvelle émission contribue ainsi à son tour à faire découvrir l'univers et l'imaginaire de cet important compositeur qu'a été Daniel Meyer.
Oh.
Résonance sur Tropic FM, émission spéciale Daniel Meyer, compositeur. Nous poursuivons effectivement au cours de cette seconde émission à évoquer la vie et l'œuvre de Daniel Meyer. Et je suis encore accompagné aujourd'hui à mes côtés, à ce micro, par Florence Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour d'autant plus Florence que du coup nous venons d'entendre cette très belle pièce pour soprano et archilute de Daniel Meyer, et c'est vous qui interprétez cette même œuvre. Hein. Là aussi, la complicité, effectivement, de la femme, de l'épouse, mais aussi de l'interprète aussi avec le compositeur. Et c'est une autre facette, ça aussi.
Oui, c'est une autre facette, effectivement. Daniel aimait beaucoup la voix. Il a toujours beaucoup aimé la voix. Il était lui-même excellent chanteur. Et c'est lui qui m'a d'ailleurs, qui m'a ouvert à cette discipline, parce que j'étais violoncelliste, mais il m'a appris à chanter, il m'a donné le goût. Et donc je suis très heureuse d'avoir pu participer à son œuvre. Il m'a écrit plusieurs œuvres. Il a écrit beaucoup pour la voix aussi, pour le cœur, pour... Et moi, je suis très heureuse. J'adore cette pièce.
Ah, elle est magnifique.
Je me sens très à l'aise dedans.
Ça s'entend. Voilà. C'est une belle incantation,
oui,
justement.
Oui, oui,
c'est
oui. Une belle... Pensez à une femme dans le désert, entre incantation. C'était l'image qu'il avait.
Voilà. Merveilleuse pièce donc de 1992. Toujours aussi à nos côtés, avec un grand plaisir, Jean-Marc Jouve. Bonjour.
Bonjour Alain.
Et bien sûr, Lucien Guérinel.
Bonjour Alain.
Bonjour. Hein. Et peut-être... dans cette deuxième émission, Florence, pourrions-nous évoquer aussi finalement l'homme de terrain, l'homme de terrain qui a eu des engagements multiples en fonction des lieux et des territoires sur lesquels il a œuvré, hein, et qui a quand même été une constance finalement peut-être tout au long de ce parcours. Je pense peut-être à voilà à un des premiers éléments, 1968, devenir le directeur d'une maison de la culture dans une démarche de compositeur, c'est quand même pas inintéressant et particulier en même temps.
Il était directeur de la musique.
Et directeur de la musique.
Voilà. À la maison de la culture, effectivement, là, il a pu œuvrer pour la transmission de, enfin pas la transmission, faire connaître au public des campagnes, dans les écoles aussi pour les étudiants, les enfants. Et il a beaucoup œuvré pour apporter la musique dans les endroits où elle était inaccessible, quoi, en faisant venir des artistes professionnels.
En plus, c'était à Bourges, donc on n'était encore pas dans quelque chose qui allait devenir un centre important au fur et à mesure.
C'est quand même la deuxième maison de la culture qui a été créée en France. Hein.
Aussi, c'est un fait majeur quand même.
C'était quand même le Berry profond. Hein.
On était dans le Berry profond. Mais là aussi, démarche de faire découvrir en invitant de grands artistes et aussi déjà la musique contemporaine, la musique d'aujourd'hui.
Voilà, sur tous les domaines. Dans tous les domaines, il a essayé de faire connaître à la fois la musique ancienne, classique, enfin toutes les époques. La musique contemporaine, il a toujours œuvré pour ça. Oui, c'était vraiment un souci pour lui d'ouvrir la musique à tout le monde.
Et puis, vous le disiez à l'instant, le côté d'ouvrir un large public, mais aussi les enfants. Et donc, du coup, un des premiers à mettre sur pied un service aussi d'animation musicale. Aujourd'hui, ça fait un peu plus péjoratif quand on dit animation musicale, parce que le terme a un peu été galvaugué. Mais à l'époque, c'était vraiment...
C'était tout à fait novateur. Hein.
Complètement.
C'était la Maison de la Culture qui organisait des... Enfin, c'est lui qui le faisait à travers la Maison de la Culture, qui organisait des séances d'animation avec des artistes qui venaient souvent de Paris parce que... et certains de sur place, hein, au conservatoire. Et il les amenait dans les écoles, il faisait lui-même l'animation, il présentait les interprètes, il présentait les musiques, et il jouait avec les enfants, enfin, il était très doué pour ça.
Une autre facette, finalement, de Daniel Meyer, importante, parce que là aussi, on sent que ça fait corps, si je peux aussi poser ce terme, avec, on a évoqué dans la première émission, cette philosophie de pensée, cette attitude, quel côté très rigoureux vis-à-vis de cette posture, et là aussi un engagement fort, au travers de sa composition, mais là, on parlait de l'humain aussi également, donc du coup, de transmettre, d'être là aussi, de révéler aussi chez chez le jeune enfant finalement, aussi ses envies et sentir surtout l'importance que ça avait et que ça a justement de faire ce travail-là au niveau de l'enfance.
Voilà,
justement.
Au niveau de l'enfance, tant qu'ils sont justement dans ce processus de création un petit peu, quand on les voit dessiner ou même improviser plus ou moins avec des petits instruments, ils sont tout le temps dans la création, l'improvisation. Et ça, il disait toujours que dans les conservatoires, malheureusement, on apprenait au contraire...
qu'on restait peut-être que sur l'interprétation de la partition.
Et puis on tuait petit à petit cette possibilité que nous avons tous de créer.
Et là, il y a quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que tout le monde veut être un compositeur, mais comment on va pouvoir forger, effectivement, la pensée, les choix, les refus, la liberté d'expression de chacun. Et ça démarre au plus jeune. Et qu'on doit pouvoir lui permettre, effectivement, au travers de la musique, là aussi, de montrer que ce n'est pas forcément quelque chose d'un homogène, bien polissé, qu'on ne doit pas dépasser, voilà. Mais que chacun doit trouver sa place.
Voilà,
et c'est en cherchant, en tâtonnant, en osant dire, en osant faire, en osant être, ce qui est le plus difficile, effectivement. Voilà, mais en tout cas, d'amener dans ce sens-là, et là, les pratiques artistiques sont un enjeu majeur.
Absolument, absolument. D'ailleurs, Jean-Marc Jouve l'a expérimenté lui aussi hein, dans sa carrière.
Jean-Marc Jouve, vous aussi, oui, alors ce travail de terrain, ce travail avec des enfants, là aussi, c'est un fondamental.
Oui. Pour l'instant, je voudrais revenir sur cette activité de Daniel et qui répond à sa posture aussi très, très intransigeante par rapport à l'enseignement. Il allait jusqu'à dire que normalement, enfin, on devrait dans les conservatoires, l'apprentissage devrait se faire directement par la musique de notre temps.
Oui.
Et voilà, il l'a souvent formulé. Voilà. Et le corollaire de ça, c'est que ça ne dispense pas de la capacité et je pense que c'est ça l'éducation aussi en tout cas musicale, c'est de donner la capacité aux jeunes et aux étudiants de pouvoir se mettre dans la perspective historique, c'est-à-dire d'avoir une culture vraiment de tout ce qui s'est passé avant nous et pour s'inscrire dans une évolution. Quoi.
Ça me paraît important et effectivement c'était une posture importante de Daniel Meyer, en tout cas dans sa manière d'imaginer, de concevoir.
Si je peux,
bien sûr, allez-y Jean-Marc Jouve.
Si je peux ajouter un mot sur par rapport à la pièce qu'on vient d'entendre.
Oui, la cantation.
Et par rapport à la voix, Je perçois cette posture aussi, mais alors là sur le plan esthétique et de la composition, comme un positionnement fort sur le lien entre la musique ancienne et la musique contemporaine, ne serait-ce que par la voix qui est atemporelle.
Et, le choix de
l'archilute
aussi.
Oui, le choix de l'archilute, de l'instrumentation.
Voilà. Et je l'ai toujours connu... comme compositeur et évidemment comme chef de chœur ou d'orchestre, à être sur ces deux tableaux de musique dite ancienne et contemporaine. Et à travers, quand on regardait un petit peu, quand on écoutait ses œuvres, on se rendait compte qu'il ne s'agissait pas de musique ancienne au sens de vieille et de dépassée.
C'est ça.
Mais évidemment... de tous les ferments que cette musique renferme et toutes ces richesses immenses. Donc là, Daniel donnait à entendre et donnait à exciter la curiosité pour aller soi-même ensuite chercher. Je sais que je me souviens dans ses cours d'analyse, bien sûr, on étudiait des œuvres. Nous parler de Xenakis, enfin il y avait bien sûr, et Lou Messiaen. Et je me souviens, un jour il nous a emmenés à la bibliothèque du conservatoire, et puis là, pour nous montrer des partitions de. Alors c'était pas. J'essaie de retrouver, c'était pas Josquin des Prés, mais enfin voilà.
quelqu'un de cette époque.
Pour nous montrer que la matière interne, ça n'a aucun sens de dire que c'est ancien.
Absolument. Voilà. Oui, ça me paraît très important.
Très formateur.
Absolument.
D'ailleurs, Webern, je crois, a été un passionné de musique médiévale, notamment sur les rapports du contrepoint.
Du contrepoint.
Et de l'imitation.
Et là, je crois que c'est quelque chose aussi important. On a tellement tendance à catégoriser, à mettre dans une partie, etc., et à faire un certain aspect de dogmatisme, académisme, à un moment donné des choses, que ça n'a pas de sens, effectivement, et que toutes les musiques, qu'elles soient, et à quelques époques qu'elles soient, finalement, répondent à d'autres principes que simplement cette catégorisation.
Ouais. Je pense que c'est une grande force de son enseignement de nous emmener sur des territoires éloignés dans le temps. Et cette, encore une fois, cette capacité-là à interroger les vecteurs, enfin, ce qu'on appelle les invariants, quelle que soit l'époque. Et développer cette capacité chez un étudiant, ça, c'est vraiment très, très... C'est une chance, quoi.
Lucien, ça vous semble aussi...
je pense irrépressiblement au madrigal de Gesualdo, qui est célébrissime. Morellas, qui commence par un accord de do dièse majeur. Il fallait le faire, hein. À cette époque-là, d'écrire en do dièse majeur. Il y a guère que Scriabine, bien plus tard, qui a fait des tonalités du genre... do bémol majeur, par exemple. Hein, voilà.
Oui.
Donc, et puis pour une partition qui, je reviens à celle de Gesualdo, qui est en la mineur en fait. Bon, alors ouais, le concept de modernité, c'est encore un truc de maintenant.
C'est clair.
Jamais personne n'a parlé de modernité à nulle part, même au 19e siècle. Donc, même s'il y a eu la querelle des anciens et des modernes, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, mais enfin, elle est de toute façon, une querelle n'est jamais intéressante, et moi, ça ne m'intéresse pas, les querelles, même celles des siècles précédents. Parce que, on n'en est pas à la querelle. Donc, il y en a suffisamment ailleurs. Là, alors, effectivement, l'évocation de M. Meyer allant montrer des partitions des temps anciens, bien sûr. C'est un peu comme si on disait que le théâtre grec est une vieille chaussette. Non, voilà, ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, forcément, la littérature des époques où on a commencé à faire des choses, où on a continué à faire des choses. Hein. Faut pas oublier que même les Grecs, ils avaient une musique, même si on n'a pas retrouvé ce que c'était, elle existait. Hein. Un homme comme Sophocle, il composait sa musique. C'était pas des bluettes, c'était véritablement quelque chose d'important. J'évoque cette partie grecque parce qu'elle m'est particulièrement chère, mais on aimerait bien savoir exactement ce qui s'y passait. Hein. On connaît à peine les effectifs, mais pas tellement le détail. Bon, ce terme d'ancien, etc., ça indispose, ça. Il y a autre chose à dire de la vie des hommes, de leur création, etc. Alors, bon, il y a des choses qui se perdent un petit peu en route, c'est vrai. Il ne faut rien nier non plus. Hein. Et il y a des choses qui baissent un peu leur ramure, je n'ai pas trouvé le mot exact, enfin peu importe, comme un arbre qui se plie sous le vent, et puis il y en a qui résistent à tous les vents. D'accord, mais ça fait partie des choses de la vie, ça fait partie des dimensions respectives des œuvres qui ont été faites. Hein. Voilà, point. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil en réalité, il n'y a rien de nouveau, et au sens propre du terme. Alors après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut aller faire des bouillons dans les vieilles marmites. Ça n'a pas d'intérêt même, tout ce vocabulaire-là, c'est pas bien. Alors oui, effectivement, je trouve que voilà, une vocalise, c'est le rappel que l'homme a commencé par chanter. Avant même faire des mots, il avait la voix, il chantait, voilà. Et c'est quand même la grande émotion, ça, parce qu'il trouvait par ce mode d'expression... quelque chose qui lui manquait. Et à partir de là, on sait ce que ça a donné plus tard. Il a fallu de la patience. Hein. L'histoire d'humanité,
elle est longue.
200, 300 ou 400 000 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas notre petite période de maintenant qui va nous faire, tout d'un coup, vaciller sur nos convictions, sur notre connaissance, tout simplement, de ce qu'est le parcours des arts. En tout et pour tout. Parce que les vases grecs de l'ère primitives, si on peut dire, ce qu'ils ont à voir, à pleurer contre un pot de Picasso, par exemple, qui d'ailleurs se référait assez bien
aussi à ces œuvres-là.
Aussi lointaine, ou aussi excentrique que l'Afrique, par exemple. C'était quand même une excentricité, l'Afrique, il y a encore 100 ans. Voilà, donc, tout ça, c'est de la vase. Voilà. Donc, il reste ce que fait l'homme, quand je dis l'homme, c'est au sens évidemment générique du terme, hein, bien entendu. Ne faisons pas encore des querelles de genre féminisme qui me hérissent le poil vraiment tous azimuts. Ça aussi, c'est très gênant, hein, voilà, pour la femme. On ne va pas développer cet aspect de la question. Les femmes valent mieux que ça. Hein.
On est bien d'accord.
Et donc, personnellement, je trouve qu'il faut être à l'écoute. On peut dire tout ce qu'on veut, ici ou ailleurs, ça n'empêche qu'on a à respecter, ou à admettre, ou à reconnaître, plus exactement pas à admettre, parce qu'admettre ça veut toujours dire qu'il y a un peu de condescendance, mais à reconnaître les gens qui ont vraiment un grand talent. Si en musique on a parlé de M. Boulez, parce qu'il a quand même couvert la deuxième partie du XXe siècle, et puis il est encore là, hein, même s'il est maintenant un vieux monsieur, très vieux monsieur, il n'empêche que personne... On pourra dire que Boulez n'est pas une personnalité. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est une très haute personnalité. Comme Messiaen était. Moi, je n'aime pas la musique de Messiaen personnellement. Hein. Bon, ça fait partie de mes fibres personnelles. Ça n'a pas d'intérêt. Mais je crois que Messiaen, il a peut-être été le musicien le plus extraordinaire de tous les temps. Par sa faculté, sa perception auditive, etc. Donc, au point de vue de l'intelligence musicale, je pense que c'est presque peut-être mieux que Bach. On peut se poser cette question. Je ne suis pas particulièrement porté par sa musique. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais je vous dis, la vie de M. Guérinel, ça n'a absolument aucun intérêt. Là, je le dis parce que je suis là, mais c'est tout. Voilà. C'est tout. Mais le reste, oui. Il faut rester... de plein pied avec les choses, pas par-dessus, et sans hâte, et surtout sans mauvaise passion.
Alors après avoir disserté ensemble sur ces notions fortes, je vous propose justement de réentendre de votre musique, Jean-Marc Jour. Dans notre première émission, nous avions entendu tout un cycle autour du piano, Jeté aux étoiles, une suite pour piano. Et là, nous allons pouvoir découvrir une pièce, cette fois-ci pour clarinette et percussion. Alors, clarinette et percussion, ça nous permet aussi de faire un petit signe à nouveau à Béatrice Bern, que nous avons pu découvrir lors de cette première émission. Et là, il s'agit de Ciel. On en parle tout de suite après. Voilà, petit extrait de Ciel pour clarinette et percussion, Béatrice Bern et Brian Arkinol, percussionniste américain, beau duo. C'est l'ensemble Kairos, hein, c'est ça, voilà, fondé par Béatrice Bern, justement, qui est là à l'œuvre.
Voilà, qui avait passé une série de commandes à plusieurs compositeurs pour une création collective, donc, qui a eu lieu l'année dernière, je crois. avec l'ensemble Kairos, qu'on prend aussi un accordéon, mmh. avec Vincent Lhermé.
D'accord, ah bah oui. Voilà.
Et, donc, et cette, aussi. Cette pièce, oui, cette pièce Ciel, donc l'objet enfin, de la pièce, c'est, enfin, elle est dédiée aux victimes de la dictature qui a sévi en Argentine de 1976 à 83. Et donc, comme ça a duré 7 ans, la pièce comporte 7 mouvements, 7 vagues, comme ça. Et celle qu'on vient d'entendre, c'est un épisode qui est traversé par un cantus firmus, c'est-à-dire une mélodie ancienne, enfin grégorienne, voilà, qui est le Veni Creator, et qui traverse comme ça tout l'espace. Et bon, évidemment, il n'est pas reconnaissable parce qu'il est, complètement, il est traité, écartelé. Enfin bon, voilà. Voilà. Et il y a une ponctuation qu'on entend tout à fait à la fin, au vibra, et qui est le motif initial du De Profundis. De Profundis, clama vi a te domine. Et voilà, c'est juste des. Voilà, des appels comme
des
ça.
Appels qui sont là,
des ombres. Oui, oui, oui. Mais voilà, bon, c'est. Et puis chaque vague a sa construction propre.
C'était plaisant, en tout cas, d'entendre à nouveau Béatrice Bern. Là, on évoquait tout à l'heure la relation avec la musique du passé. On parlait de Bach. Voici maintenant le quatuor numéro 2 de Daniel Meyer, qui est interprété aussi par le quatuor Prima Vista.
Thank you.
Résonance sur Tropic FM, émission spéciale Daniel Meyer, compositeur. Nous venons d'entendre le quatuor numéro 2 sur BACH, interprété donc par le quatuor Prima Vista, quatuor 2 Daniel Meyer. Et nous avons la chance et le plaisir d'accueillir à ce micro, depuis l'Auvergne peut-être bien.
Je suis sur Paris, en fait.
Voilà, vous êtes sur Paris. Merci, Bodim, hein, parce que
bonjour.
La liaison est... Voilà, vous avez une journée très chargée et je suis vraiment très heureux qu'on puisse vous accueillir dans cette émission consacrée à Daniel Meyer. Et puis, nous venons d'entendre, et les auditeurs viennent de découvrir, effectivement, ce magnifique quatuor avec cette référence, cet hommage, on pourrait dire aussi, au grand cantor qu'était Jean-Bastien Bach. Alors, peut-être, il y a une grande complicité entre vous et Daniel Meyer, peut-être de revenir un petit peu sur comment cette rencontre s'est faite entre vous et Daniel Meyer.
Alors, il y a eu deux moments de rencontre, si je veux dire, avec Daniel Meyer. Il y a la rencontre que je fais moi comme auditeur de sa musique ou de celle qu'il compose et de celle qu'il interprète. Et donc, à ce moment-là, lui ne me connaît pas, mais moi, évidemment, en vivant en Auvergne et étant mélomane, je connaissais évidemment Daniel Meyer et certaines de ses œuvres, et également son travail dans l'ensemble de la caméra. Après la rencontre de compositeur et interprète, elle s'est faite vraiment en 2000, lorsque, effectivement, à la faveur de ce 250e anniversaire de la mort de Jean-Sébastien Bach, nous avons décidé, avec le Quatuor Prima Vista, de monter un programme qui réunirait un florilège des œuvres qui ont été écrites sur ce fameux cryptage musical du nom de Bach, le BACH, qui... a fait florès,
tout à fait.
Au 18e, au 19e et même au 20e.
Même au 20e.
Et a commencé par Bach lui-même, puisque la dernière fugue inachevée de son art de la fugue, il se cite lui-même. Il se cite lui-même. Et donc, ça m'a semblé très naturel d'aller vers Daniel Meyer, qui était quand même, je dirais, la figure la plus éminente en termes de compositeur à Clermont-Ferrand. Il enseignait, il composait, il interprétait. C'est quelqu'un qui avait déjà un rayonnement considérable. Ça m'a semblé naturel d'aller le voir. Je n'étais pas du tout sûr qu'il nous dirait oui. et à notre grande satisfaction, et avec toute la gentillesse que ceux qui ont travaillé avec lui lui connaissent et que nous avons découvert à cette occasion, il a effectivement accepté d'écrire ce deuxième quatuor sur le nom de Bach.
Et c'est vrai que c'est magnifique, en tout cas c'est une œuvre superbe, et on a beaucoup parlé justement avec Jean-Marc Jouve, alors qui est à mes côtés, Florence Meyer aussi qui sont là,
bonjour,
qui
Florence.
Voilà, Lucien Guérinel qui est compositeur aussi également et qui est là. On a évoqué aussi tout finalement ce passage, si je peux dire, sans sectarisme ou sans catégorisation justement d'œuvres du passé, d'œuvres du présent, mais au contraire cette même filiation et cette nécessité pour lui aussi de faire sens et puis de révéler à ceux et celles qui travaillent avec lui l'importance justement de ces vases communicants, si je peux dire aussi un peu. Et on sent aussi au travers de cette œuvre BACH sur les lettres de Bach aussi que ça transpire justement.
Oui, tout à fait. Bon, on est en présence avec Daniel Meyer de quelqu'un qui est un compositeur pédagogue.
C'est-à-dire
qu'il a quand même, d'abord, il a beaucoup de cordes à son arc, mais c'était effectivement un enseignant également aussi, et non pas, je dirais, un compositeur dans sa tour d'ivoire, ce que je ne dis pas de manière péjorative. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
On peut vouloir avoir besoin aussi d'être dans une tour d'ivoire. Je crois que lui avait besoin du contact humain. C'est quelqu'un qui était très proche des gens. Et dans ma relation, dans la relation que nous avons eue avec lui en tant qu'interprète, on a senti quelqu'un qui avait besoin de ça, finalement.
C'est ça.
C'est pas quelqu'un qui, je pense, s'enfermait pour créer dans son coin, et qui, je dirais, en quelque sorte, livrait la partition aux interprètes, lesquels devaient faire ce qu'ils pouvaient avec. Il a été avec nous pendant tout le temps de travail. Il était très à l'écoute.
C'est ce que j'allais vous demander. Oui, c'était quelqu'un de très à l'écoute de l'interprète.
Il était très à l'écoute. Bah, c'était un vrai... pour moi, un vrai compositeur, au plein sens du terme, c'est-à-dire que, bon, sans parler du fait, bien sûr, qu'il maîtrisait son art parfaitement, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait absolument obtenir sur sa partition, mais qui avait des champs d'ouverture, c'est-à-dire qu'une fois qu'il nous avait dit ce qui était clairement défini dans sa partition, il était ouvert à ce qu'on fasse des propositions. Et non, c'était très intéressant de travailler avec lui, le travail des harmonies, qu'on a parfois... On disait, ah, ça peut sonner peut-être un peu mieux comme ça. C'est quelqu'un qui était ouvert aussi aux solutions purement instrumentales, qui était capable de courber son idée à certaines contingences, je dirais, de l'organologie.
Oui, c'est ça, voilà.
Ça, c'est très agréable, c'est très très agréable.
Très agréable, très précieux, et je pense, on parlait de vaste communicant là tout à l'heure, quelque chose de très enrichissant, si bien pour l'interprète que pour le compositeur.
Oui, oui, en tout cas, ce qui était formidable, c'est que bon, des œuvres, on en a créé un certain nombre, mais vous savez que ce qui qualifie pour moi une vraie création, c'est une création qui vit derrière le jour de la création. Il y a beaucoup trop d'œuvres, et les gens qui sont autour de votre table savent, qui sont créées une fois, et puis voilà, c'est fini.
Tout à fait.
Moi, en tant qu'interprète, je suis également compositeur, mais en tant qu'interprète, ça me semble essentiel de peut-être pas sans arrêt, pas d'accumuler les créations, mais de les faire vivre. Et ce quatuor de Daniel, d'abord parce qu'il a été nourri d'une rencontre humaine qui nous a vraiment beaucoup plu, enthousiasmé, mais aussi parce que l'œuvre nous a vraiment plu, et ben on l'a joué le plus possible.
Et ça, vous avez raison, c'est quelque chose d'essentiel. On a quelquefois cette surenchère de la création, hein, à un certain moment donné. Et toute la problématique est de faire vivre les œuvres. Et là, on est devant une difficulté majeure, parce qu'effectivement, une fois qu'une œuvre a été jouée, alors quelques-unes ont la chance, quelquefois, d'atteindre... Je regarde Lucien Guérinel, parce que on a eu la chance, et moi, c'était bien la première fois que j'arrivais à faire qu'elle soit jouée aussi longtemps, à diriger cette œuvre-là, 25, 26 fois. Mais pour une œuvre, c'est pas tous les jours qu'on arrive pouvoir le faire, mais c'est une histoire de volonté. Vous avez raison, je pense aussi de le soulever sous cet angle-là, où c'est un des devoirs aussi de l'interprète, quelque part aussi, d'avoir cette volonté.
Tout à fait.
Ça, je relève beaucoup. Voilà.
Il faut que l'interprète s'approprie l'œuvre.
C'est ça.
C'est très important. C'est pas. Je sais qu'on a on vit un peu à l'époque de la culture Kleenex, mais il faut s'approprier l'œuvre et se dire que finalement, quand on a la chance en plus d'en être le dédicataire, de se dire elle est à moi d'une manière différente que de tous ceux qui s'approprieront par ailleurs.
C'est ça.
En ce sens que je dois quand même la mettre en avant. Par ailleurs, les compositeurs le savent. Plus on la joue, plus elle se bonifie.
Absolument.
Parce que on est en présence d'œuvres, qui présentent parfois certaines difficultés en termes de rendu expressif, notamment.
Tout à fait.
Et c'est un tel bonheur de sentir la maturation de la pièce. Mais ça demande d'être joué beaucoup. Et là, si je puis me permettre, il faut savoir que dans l'équation de la diffusion, il y a le compositeur, il y a l'interprète, mais il y a les programmateurs.
Absolument.
Et ça n'engage que moi, ce que je veux dire. Mais je trouve que les programmateurs sont les premiers à être toujours à la recherche de toujours du nouveau. Et moi, j'ai été confronté à des gens qui me disaient, ah ben non, mais vous l'avez... Ah,
oui, vous l'avez déjà fait.
Cette œuvre, ouais, on vous l'avait déjà fait, elle a 3 ans, cette partition, déjà.
C'est ça.
Et voilà. Et là, notre pouvoir s'arrête aux portes de celui du programmateur. Hein.
Voilà, ça serait tout un débat que vous ouvrez où on pourrait dire...
Pardon.
Non, mais vous avez tout à fait raison, Bodim, de le soulever parce que, oh, je veux peut-être un peu pousser le mot aussi, on parlait là que Daniel Meyer était contre la tyrannie des esthétiques, on pourrait parler aussi de la tyrannie du programmateur. Mais
un petit peu,
quelque part. Hein. Il y a aussi aujourd'hui, où c'est moins le projet artistique en tant que tel, mais d'autres facteurs qui rentrent en jeu et d'autres contingences également dans le fait des programmations et qui font aller des fois dans certaines directions et oublier ce fait fondamental parce que on peut le penser aussi après vis-à-vis d'un public. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, à la fois dans sa démarche, Daniel Meyer était compositeur, pédagogue, mais aussi un artisan de faire découvrir à d'autres. C'est vrai qu'au travers des interprètes et de multiplier les possibilités de faire rencontrer un public le plus large avec une œuvre, c'est aussi quelque chose de complètement essentiel et que malheureusement aujourd'hui on a. Alors il y aurait plein de raisons là aussi qui mériteraient largement une ou deux émissions dessus, mais sur la diffusion, la circulation des œuvres, de toutes ces œuvres-là, il y a un enjeu majeur quoi qui est là et encore une fois effectivement les interprètes, même si effectivement vous avez raison de le soulever, le programmateur aussi évoque des contraintes aussi par rapport à ça, mais là il y a des enjeux majeurs quoi aussi qui sont à relever effectivement.
Hein. Je pense que les programmateurs aussi parfois méjuge des capacités du public. Et nous avons pu constater avec, par exemple, cette œuvre de Daniel, qui date donc de 2000, nous ne l'avons jamais jouée sans que le public, finalement, adhère. Moi, je me rappelle que le jour de la création, en bis, on l'a... Bon, c'est... heureusement, ça n'est pas une œuvre qui dure très longtemps. Donc, enfin, heureusement, au sens où on peut la rejouer intégralement, sans que cela obère totalement la durée du concert. Et je me rappelle qu'en bis, moi, je me suis adressé au public et je leur ai dit, vous savez, finalement, je trouve que le public est le plus méritoire face à une création. Parce que nous, quelque part, ça fait X semaines qu'on l'a sur nos pupitres, on l'a travaillé. Mais vous êtes supposé, je dirais, la digérer en une seule fois.
Exactement.
Du premier coup. On vous demande beaucoup, finalement. Alors, tant qu'on va vous la rejouer en bis en intégrale. Et les gens ont adoré ça.
Mais j'imagine.
Et il ne faut pas que les programmateurs aient peur de faire fuir le public. Toute cette musique de notre époque, qui est d'abord d'une diversité incroyable, je trouve d'une diversité bien plus grande qu'elle n'a jamais été dans les siècles passés, elle peut davantage faire adhérer les gens à cet univers de la musique savante que peut-être même des quatuors de Beethoven. Un quatuor de Beethoven est parfois beaucoup plus austère à faire entendre au public qu'une œuvre de Messiaen ou de Daniel Meyer. Je trouve, c'est mon opinion.
Non, mais vous nous attirez sur un chemin qui est hyper intéressant, je trouve, et qui d'une part fait prendre en compte que on ne leurre pas un public aussi et qu'on ne sous-estime pas l'intelligence de ce public, si diversifié soit-il. Et quelquefois, là-dessus, effectivement, on galvaude un peu cette posture où on le mésestime un peu dans en cela. Et donc, du coup, là, il y a effectivement matière à réfléchir sur ce que c'est qu'effectivement la représentation et la relation à un public et les enjeux de cette représentation et de cette relation avec un public. Et ça me paraît vraiment également un aspect important. Et puis, cette diversification, effectivement, d'aujourd'hui pour faire découvrir ou appréhender un public grâce à cette diversité, justement, d'écriture, de modalités, d'expression musicale, de le faire aussi adhérer à la musique savante et que là il peut y trouver des ressources incroyables en tout cas.
Oui, tout à fait. Alors pour revenir sur le BACH et à Daniel, l'idée qu'il avait eue pour notamment le gimmick, je dirais, mais qu'il fallait y penser, c'était très bien trouvé, c'est que effectivement de toutes les œuvres que nous avions interprétées avant dans l'ordre chronologique, 18e et 19e, évidemment, le BACH était traité de façon horizontale, naturellement, et lui avait généré tout simplement verticalement un certain nombre d'accords combinatoires avec le BACH. C'était très intéressant parce qu'on a fait parfois des conférences d'écoute pour le tout public qui, par ce biais-là, permettaient d'éveiller un peu leur oreille à ce qu'est l'harmonie, ce qui, comme le savent les compositeurs qui sont autour de votre porte, de votre table, est quelque chose de très dur à faire comprendre aux non-initiés. Hein.
Bien sûr.
La verticalité en musique, c'est très difficile.
C'est très difficile.
Et là, avec le BACH, finalement, c'était très bien trouvé. Moi, je trouve que c'est une très belle œuvre et j'aimerais que d'autres ensembles se l'approprient. J'aimerais vraiment qu'elle rentre au répertoire d'autres musiciens.
On en serait fort heureux et c'était une des questions qu'on disait. Comment, voilà, quand on parlait de la circulation de toutes ces œuvres et de la continuité des œuvres de Daniel Meyer, hier avec Béatrice Baird, on en parlait aussi dans l'autre émission, etc. Donc, vous avez raison, on ne peut souhaiter que d'autres quatuors, en tout cas, s'emparent de cette œuvre et la fassent connaître aussi également. Hein.
Bah, vous me dites que... Alors Béatrice, je la connais bien, on a fait de la musique ensemble, c'est une merveilleuse clarinettiste, mais elle est pédagogue, hein, elle enseigne également au conservatoire de Clermont, enfin il me semble qu'elle
tout à fait.
À une époque, je ne sais pas si elle y est toujours.
Elle y est toujours.
Formidable. Je trouve que par exemple, ce quatuor de Daniel, mais je prends cette œuvre, il a une œuvre pléthorique, hein, mais puisqu'on parle de ce quatuor-là, voilà une œuvre qui pourrait être, par exemple, donnée au quatuor d'élèves du conservatoire de Clermont. Voilà,
si j'étais
le directeur du CNR de Clermont, c'est ce que je ferais.
Et vous avez raison.
mais je ne le suis pas.
Mais oui.
Voilà.
Dommage.
Mais ça me semblerait super naturel, vous voyez. Bon,
mais je suis d'accord avec vous, effectivement.
Et ça leur ferait travailler des sonorités, parce que c'est une œuvre en fait de très typiquement de notre époque, c'est-à-dire les couleurs, les impressions, les ambiances. C'est une œuvre très agréable à jouer. Daniel c'est un compositeur, c'est un pédagogue, mais c'est également un interprète, c'est un musicien. Et souvent, les compositeurs musiciens écrivent bien au sens où c'est agréable à jouer. Je vais prendre un exemple extrême, hein. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre les gens en comparaison, mais par exemple, Robert Schumann est quelqu'un qui se souciait peu, je dirais, de l'efficience de son écriture pour les cordes. Et donc, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est pas vraiment très très bien écrit.
Très bien
écrit,
on va dire.
Bon, ça, en fait, c'est génial, moi je suis un fou de Schumann,
mais
pour vous dire qu'il y a vraiment les compositeurs qui ont ce souci belle écriture organologique et instrumentale et idiomatique, je dirais, puis d'autres, bon, qui s'en soucient moins. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, et puis c'est le métier du professionnel de s'en accommoder.
Absolument.
Mais avec Daniel, comme on est avec un interprète, bah, je dirais même inconsciemment, il en a souci. Et donc sa musique, elle est agréable.
Elle est agréable, mais complètement.
Oui, elle est agréable à jouer, tout à fait. On se fait plaisir à la jouer.
C'est un réel plaisir et un grand plaisir vraiment de vous entendre et de vous avoir eu dans notre émission que je pense que voilà, on ne vous aurait pas eu, c'est des propos qui auraient manqué.
Merci Bodim.
Merci à bientôt, beaucoup. Laurent,
à très bientôt en tout cas, Bodim Jam, merci hein, vraiment, c'est un énorme plaisir.
Merci,
on vous dit à bientôt.
De parler de Daniel.
Mais c'est pour nous, c'était un honneur de le faire et très important de le faire. Donc merci de nous avoir aidé à contribuer à le faire. On vous dit à bientôt, hein, d'accord.
À bientôt, au plaisir.
Au plaisir. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. J'espère en tout cas, chers auditeurs, que avec ces deux émissions spéciales consacrées à ce grand compositeur qui a été Daniel Meyer, vous oserez vous aussi aller plus loin dans cette rencontre. En tout cas, on espère vous en avoir donné envie. On essaiera bien sûr d'aller poursuivre aussi au travers d'autres émissions, de vous faire découvrir d'autres œuvres de Daniel Meyer. Vous entendrez justement non pas en fond mais en accompagnement justement une des œuvres qu'il a écrites pour cinq voix de femmes, Sequenzia Pascali, composée en 2001 pour l'ensemble Ravochis, qui est aussi un superbe ensemble là sur un thème grégorien, vous pourrez aussi, en tapant peut-être Florence, sur le site
Daniel Meyer compositeur.
Daniel Meyer compositeur, en vous rendant sur internet, vous pourrez aussi en savoir plus, écouter d'autres œuvres.
L'orthographe de Meyer.
L'orthographe aussi, oui, vous avez raison.
M-E-I-E-R.
Voilà, on vous donne toutes les précisions utiles pour que vous puissiez, justement, chers auditeurs, continuer en dehors de cette émission, si vous en avez envie. La découverte de Daniel Meyer. Donc, vous aurez la possibilité aussi, comme d'habitude, de pouvoir redécouvrir cette émission jeudi prochain. Puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, et puis pour écouter votre radio préférée qui est Tropic FM, vous pouvez aussi vous rendre pour podcaster l'émission, connaître sa grille de programmes sur son site www.tropicfm.org. Merci de nous avoir accueillis chez vous, merci pour votre confiance et votre curiosité, et à bientôt.